L'histoire témoigne nettement et clairement du fait que chaque fois que l'Église a été sainte et rigoureuse, elle a forcé les gouvernements à être justes. Des conditions spirituelles déplorables dans l'Église produisent directement ou indirectement une direction politique déplorable. L'Église décide de la nature du gouvernement dont dispose chaque pays. Elle ne l'obtient pas en faisant campagne pour un candidat ou un autre, mais en prêchant et en vivant selon les hautes exigences de l'Évangile du Seigneur Jésus. Cet évangile prêché et vécu devient un miroir et une conscience irrésistible pour les chefs politiques. Il y a beaucoup trop de croyants aujourd'hui dont la préoccupation est de faire une analyse politique des périls actuels, mais il y en a trop peu qui analysent les périls spirituels de l'heure, et encore moins qui sont occupés à détourner la marée spirituelle ambiante par leurs larmes et leurs prières. 4. La véritable tragédie Ézéchiel 22, 28-29. La véritable tragédie est ce qui se passe dans de tels moments. Les prophètes enduisent le peuple de lait de chaux. C'est-à-dire qu'ils n'insistent pas sur la nécessité d'une profonde repentance. Aujourd'hui, le jeune homme riche aurait été accepté par de nombreux dirigeants d'église et aurait même été nommé ancien. Les conducteurs ont de fausses visions de bénédiction et de paix. Ils disent « Je sens la présence de Dieu dans l'église aujourd'hui », alors que Dieu est forcé de se voiler la face à cause du péché. De tels dirigeants donnent des prophéties mensongères et disent au peuple « Ainsi dit l'Éternel », alors que l'Éternel n'a pas parlé. Le problème est plus profond encore, car ce ne sont pas seulement les prophètes qui mentent, mais le peuple lui-même qui se trouve dans une situation terrible. On commet des extorsions, des... Page 105. Escroquerie. On dérobe l'homme et Dieu. On opprime le pauvre, l'indigent et l'étranger. Ces conditions rendent la nation mûre pour le jugement, un juste jugement. Il est impossible que Dieu ferme indéfiniment les yeux devant une telle situation. L'amour de Dieu pour une nation livrée au PECHE, malgré l'horreur de la situation, l'amour de Dieu pour la nation, et le peuple ne le dispose pas à les détruire. Par conséquent, Dieu cherchait un homme parmi eux. Il est triste de savoir que Dieu fut obligé de chercher. En des termes humains, on peut dire que Dieu éprouvait un besoin qu'il n'arrivait pas à satisfaire facilement. Dieu cherchait un homme, et non pas un ange, au milieu de son peuple, et non venant d'ailleurs. 2. Qui élève le mur de la prière et de la sainteté. 3. Qui se tienne à la BRECHE devant, lui se tenir à la brèche devant l'homme est une chose, mais se tenir à la brèche devant Dieu est tout à fait autre chose. Cela exige la sainteté et l'élévation de main pure. 4. En faveur du pays, se tenir à la brèche, cela ne signifie pas intercéder pour des besoins personnels ou des problèmes personnels, mais intercéder pour le pays, pour le peuple. Se tenir à la brèche devant Dieu, en faveur du pays ou du peuple, c'est cela l'intercession. Dans l'intercession, une personne sainte se tient à la brèche entre Dieu et quelqu'un d'autre ou entre Dieu et une région pour empêcher Dieu d'envoyer son jugement sur ce lieu. L'intercesseur peut aussi, par une prière efficace, obtenir de Dieu des bénédictions en faveur de celui pour lequel il intercède ou de la région pour laquelle il prie. Page 106. Un exemple d'intercesseur. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi ? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, pour 5 détruiras-tu toute la ville ? » Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 22, 33. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel 18:22. Il s'y tint. Il fut patient. Il attendit. Il n'était pas pressé, car aucun intercesseur n'oserait être dans la précipitation. Il était saint. Il pouvait se tenir devant le Seigneur sans profaner sa sainteté. Puis Abraham s'approche à 18:23. Il voulait être dans la plus grande intimité avec Dieu, car il était sur le point de s'engager dans une affaire très solennelle avec Dieu. Les vrais intercesseurs sont des gens qui connaissent Dieu, des hommes qui, à cause d'une communion très intime avec Dieu, peuvent non seulement se tenir réellement en sa présence, mais aussi, étant dans sa présence, peuvent s'approcher de lui. Abraham connaissait le cœur de Dieu. Le Seigneur avait dit « Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai » Genèse 18:21. Abraham savait que ce « je le saurai » voulait dire que les choses, page 107, étaient sérieuses. Sachant donc comment Dieu devait agir, il décida d'intercéder. Permettez-moi d'insister sur le fait qu'il faut que les grands intercesseurs connaissent le cœur de Dieu et qu'ils intercèdent en conséquence. Aucun intercesseur n'oserait prier de manière vague. Il faut qu'il connaisse la pensée de Dieu. Puis Abraham posa une question sérieuse à Dieu : « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? » Genèse 18:23-24. La question était très sérieuse. Il était en train de faire appel à Dieu. Feras-tu aussi sont des mots de supplication. Mais il ne s'arrêta pas là. Il exposa le problème d'une façon encore plus précise. Il demanda si, en y trouvant 50 justes, Dieu allait toujours détruire le lieu. De telles questions vont tout droit au cœur de Dieu. Elles résultent de la plus profonde intimité. Abraham n'attendit pas la réponse de Dieu. En quelque sorte, il répondit pour Dieu, car il dit faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi ? Genèse 18:25. En un certain sens, Abraham était presque en train de reprendre Dieu loin de toi et la pensée de faire une telle chose. Il ne s'arrêta pas là. Il fit appel au sentiment de justice de Dieu et dit « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Genèse 18:25. Comment Dieu pouvait-il ne pas répondre à un tel appel ? Il était presque contraint de faire ce que l'intercesseur demandait. Dieu répondit et dit qu'il ferait ce qu'Abraham avait demandé. Puis Abraham continua de plus belle. À 10 personnes, Abraham s'arrêta. Tant qu'Abraham fut disposé à demander, Dieu répondit. Lorsqu'Abraham eut digéré ses demandées, Dieu dit ainsi soit-il, Amen. Ce fut Abraham, et non Dieu, qui fixa les limites. C'est l'intercesseur, et non pas Dieu, qui fixe les limites. Mon bien-aimé, Sodome et Gomorre furent détruites parce qu'elles avaient péché. C'est vrai. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire clairement que Sodome et Gomorre furent détruites parce qu'Abraham l'intercesseur n'a pas assez intercédé. Il ne continua pas jusqu'au bout. S'il avait continué jusqu'au bout, Dieu lui aurait accordé sa demande. Et s'il avait demandé, peut-être s'y trouvera-t-il 5 justes. Dieu aurait... Page 108. Dit « Je ne ferai rien si j'y trouve 5 justes. » Et s'il avait continué en demandant à Dieu de l'épargner au cas où on aurait trouvé 4 justes, Dieu aurait dit « Je ne la détruirai point si j'y trouve 4 justes. » Il aurait pu ensuite continuer à 3, puis à 2, puis à 1. Je crois que Dieu aurait répondu par l'affirmative. S'il avait demandé à Dieu d'épargner la ville même si aucun juste ne s'y trouvait, s'il avait continué en changeant les arguments de sa plaidoirie devant Dieu et en la fondant non plus sur le fait de trouver des hommes justes à Sodome, mais sur la miséricorde de Dieu, les résultats auraient été différents. Sodome et Gomorre auraient été épargnés. L'intercesseur serait sorti victorieux de cette bataille et Dieu aurait été parfaitement satisfait, car il cherche des hommes qui vont le contraindre à manifester sa miséricorde. Une triste pénurie, je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22:30. C'est là quelque chose d'extrêmement sérieux ? C'est comme si Dieu s'était engagé de tous côtés dans une recherche, qui s'était révélée infructueuse. La Bible dit la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, Ésaïe 59, 15-16. Dieu s'étonnait de ce qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Il n'y a que très peu de choses qui surprennent Dieu et qui le plongent dans l'étonnement. La principale de ces choses est le manque d'intercesseurs. Dieu s'attendait à ce qu'il ait des intercesseurs, mais il n'en trouva point. Un petit nombre de personnes prient occasionnellement, mais les intercesseurs sont rares, on les trouve difficilement. Des hommes et des femmes qui s'enferment pour prier sans relâche sont réellement rares. Cher saint, en lisant ceci, qu'en est-il de toi? Serait-il possible de dire que, grâce à toi, le Seigneur puisse dire « j'en ai trouvé un » Page 109. La conséquence du manque d'intercesseurs Dieu dit « mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête », dit le Seigneur, l'Éternel, Ésaïe 22, 30-31. La colère de Dieu, quoique justifiée, aurait été évitée s'il avait trouvé un homme pour se tenir à la brèche. La nation aurait été épargnée s'il y avait eu juste un homme pour jeûner et pour prier. Si Dieu voulait détruire ta nation, changerait-il sa pensée parce que tu es un intercesseur? Que Dieu fasse lever des hommes et des femmes pour intercéder et qu'il se hâte de les faire lever. Sinon, s'en sera fait de nous. Manquer d'intercéder, ce n'est pas pécher contre l'homme, mais pécher contre Dieu. Le prophète Samuel dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » 1 Samuel 12, 33. Puissent tous les prophètes parler ainsi, même dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que tout racheté dise avec Samuel qu'il ne péchera pas contre l'Éternel en manquant d'intercéder. La puissance et l'autorité de l'intercesseur, la parole de l'Éternel, dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes, et leur grand avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles? Louez l'Éternel. Psaume 149, 5-9. Par notre intercession, nous pouvons lier des rois, des présidents, des ministres, et ceux qui prennent des décisions, et les ramener à l'obéissance au Seigneur? Par notre intercession, nous pouvons décider et déterminer les projets de loi qui seront votés, les hommes qui seront nommés à certains postes, etc., à tous les niveaux sociaux et politiques. L'intercesseur à genoux peut accomplir l'impossible. Il peut mouvoir la main et le cœur de Dieu par la prière, et Dieu en retour, page 110, poussera les hommes à agir selon sa volonté. Ainsi donc, point de limite pour l'intercesseur. La parole de Dieu dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons par l'intercession les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, même celle de l'infidèle, captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir par l'intercession toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, 3-6. L'intercesseur peut renverser et réduire à néant toute pensée qui s'oppose au Seigneur, toute pensée indifférente vis-à-vis de lui. Cependant, pour cela, il faut que son obéissance soit complète. Seul celui qui est complètement obéissant peut punir complètement le diable. La mesure à laquelle un intercesseur peut amener une pensée ou toute opposition à l'obéissance de Christ est déterminée par sa propre obéissance. Chaque intercesseur connaîtra, dans une certaine mesure, la victoire sur le diable et ceux qui coopèrent avec lui. Cependant, pour amener hommes et femmes à une obéissance totale, pour que les mauvais esprits obéissent aveuglément, il faut que l'intercesseur doive au Seigneur Jésus une obéissance absolue. Cher ami, es-tu entièrement obéissant dans tous les domaines de ta vie? Le Seigneur peut-il dire, en parlant de toi, l'obéissance de celui-ci est complète? L'ennemi peut-il dire de toi, je n'arrive pas à me faire obéir par celui-ci? Dans la vie de chaque intercesseur, partout où il y a un domaine de désobéissance, il y a une perte d'autorité sur Satan? Cher saint, je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus, fais le point de ta vie et rends ensuite à Dieu une obéissance indiscutable. On raconte l'histoire d'une femme que le Seigneur avait appelée à jeûner et à prier toutes les nuits de vendredi pendant 5 ans. Chaque vendredi, elle jeûnait et passait toute la nuit dans son église, priant pour que Dieu agisse dans sa ville natale. Cette femme obéit fidèlement. Un vendredi soir, elle se rendit à l'église et réalisa qu'elle ne pouvait plus prier. Son fardeau avait totalement disparu et elle ne pouvait plus commencer à intercéder. Puis, page 111, elle se souvint que les 5 années étaient écoulées entre le moment où le Seigneur l'avait appelée à prier et le vendredi précédent. Elle retourna chez elle. Le dimanche suivant, un évangéliste visita sa ville et le réveil éclata. Elle fut parfaitement obéissante au Seigneur et le Seigneur la bénit pleinement. Puissions-nous faire de même entendre la voix de Dieu et lui obéir complètement. Le cœur de l'intercesseur, il faut que l'intercesseur soit totalement livré à Dieu. Il faut aussi qu'il soit entièrement livré à l'objet pour lequel il intercède. Il faut qu'il aime Dieu d'une façon suprême et il faut qu'il aime l'objet de son intercession d'une façon suprême. Dieu peut déverser cet amour suprême dans le cœur de ceux qui lui obéissent. Moïse, qui fut un grand intercesseur, dit à Dieu : ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre, que tu as écrit Exode 32:31-32. Il était livré à l'objet de l'intercession. Tout son être était engagé. Le Seigneur lui avait offert la grandeur spirituelle en lui disant « Je vois que ce peuple est un peuple au courroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation » Exode 32:9-10. Moïse refusa toute cette proposition et préféra intercéder. Il jeûna et intercéda. La parole de Dieu dit « Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois de Deutéronome 9:18-19. Moïse, en intercédant de cette manière, était prêt à périr éternellement si cela était nécessaire, afin que l'objet de son intercession fût sauvé éternellement. Que Dieu fasse lever de tels hommes dans l'Église aujourd'hui. L'apôtre Paul, autre intercesseur remarquable, a dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes... » Page 112. Frères, mes parents selon la chair Romains 9:2-3. Grande tristesse. Chagrin continuel. C'est là la part normale des vrais intercesseurs. Être dans une joie superficielle, dans un monde qui est à la veille du plus sévère jugement de Dieu, cela est indigne d'un croyant. Ami qui prie, toi qui es co-héritier, connais-tu cette grande tristesse? Connais-tu non seulement le chagrin, mais un chagrin continuel? Si tu ne connais pas ces choses, peut-être n'as-tu jamais été enrôlé avec Jésus à l'école des intercesseurs. L'art de l'intercesseur, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ésaïe 62:6-7. Les intercesseurs 1. Sont placés par Dieu. 2. Lutte avec Dieu. 3. Lutte avec Dieu pendant toute la journée, pas seulement pendant quelques moments. 4. Lutte avec Dieu pendant toute la nuit, ce ne sont pas des dormeurs qui se prosternent devant l'autel du Dieu sommeil. 5. Ne se taisent point, ne se lassent point. 6. Ne prennent point de repos. Ils ne se fatiguent pas facilement. Ils ont insisté auprès de Dieu et reçu de lui un corps surnaturel. Les vêtements des enfants d'Israël avaient été rendus surnaturels. Dieu a dit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Deutéronome 29:5. Nous aussi, nous pouvons recevoir de lui des corps rendus surnaturels, qui ne sont pas enclins à satisfaire les désirs normaux nourriture, sommeil, etc., comme le font les hommes ordinaires. Page 113. 7. Ne laisse aucun relâche à Dieu. Ils prient sans cesse et dérangent Dieu, par leur prière que Dieu, en des termes humains, est obligé d'exaucer pour avoir un peu de paix. 8. Continue à intercéder jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils demandent à Dieu, jusqu'à ce que Dieu bouge et bénisse, car l'intercesseur a des objectifs clairement définis. Il n'ose pas s'arrêter avant la victoire. Il n'ose pas cesser de continuer tant qu'il n'a pas obtenu la réponse. Il faut qu'il persévère jusqu'à ce qu'il obtienne l'objet de son intercession et qu'il le présente comme un trophée au Seigneur au jour du jugement. Les intercesseurs sont aussi les amis de ceux qui rappellent à Dieu ses promesses et qui argumentent avec Dieu, s'il le faut, jusqu'à ce que Dieu réalise le désir de leur cœur. Moïse pouvait plaider avec Dieu en disant « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant, « Par toi-même je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Exode 32, 11-13. Comme vous le voyez, Moïse plaida, réprimanda même le Seigneur, etc., pendant qu'il en appelait à Dieu pour la cause de son peuple. Obtint-il gain de cause ? Oui, il l'obtint. La Bible dit « L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple » Exode 32, 14. Non seulement Moïse fut exaucé, mais il était exaucé chaque fois qu'il intercédait. À une autre occasion, le Seigneur lui dit « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui » Nombre 14, 11-12. Page 114. Moïse, l'intercesseur, dit à Dieu : « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu les as fait monter par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront : « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant : « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères, sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte, jusqu'ici » Nombre 14, 13-19. Comment Dieu réagit-il devant une telle intercession ? Il exauça la demande. La Bible dit : « L'Éternel dit : Je pardonne, comme tu l'as demandé » Nombre 14, 20. Je pardonne, comme tu l'as demandé. Ce sont là des paroles qui sont d'un grand encouragement pour tous les intercesseurs et tous les futurs intercesseurs : « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Louange au Seigneur ! Les compagnons de l'intercesseur, en un sens, un intercesseur est un être solitaire, un être très solitaire, en effet, même dans une assemblée locale qui a connu le mouvement du Saint-Esprit, les intercesseurs ne sont, probablement, qu'un petit nombre, ceux qui sont prêts à intercéder vraiment. La plupart des croyants préfèrent les foules au cercle solitaire d'intercesseurs. Cependant, l'intercesseur n'est pas seul. Il a deux compagnons sur le Seigneur de gloire et le Saint-Esprit béni. Parlant du Seigneur Jésus, la Bible dit : « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, 25. Le Seigneur Jésus est dans le ciel sur son trône. Il accomplit un, page 115, ministère extrêmement vital. Il veille à ce que son œuvre, sur la croix, parvienne à son accomplissement. Quelle est donc la voie ouverte devant lui pour accomplir ce but ? C'est la voie de l'intercession. Le Seigneur Jésus semble vivre à présent pour le seul et unique but d'intercéder. Comme si, sans ce ministère d'intercession, sa vie présente ne le satisferait pas ? Il intercède en faveur de ceux pour lesquels il est mort. Sinon, ses souffrances seraient vaines. le Seigneur Jésus est le partenaire indispensable de l'intercesseur. Toi qui es co-héritier, bien-aimé intercesseur solitaire, tu n'es pas seul. Jésus est engagé dans le même ministère que toi. Réjouis-toi. Repose-toi en lui et apprends de lui l'art de l'intercession. Ne te sens pas solitaire. Écoute, il te parlait, il dit tu n'es pas seul. Tu m'appartiens. Toi et moi, nous sommes dans le même ministère. Ne perds pas courage. Vas-y, continue. Le Seigneur Jésus n'est pas le seul compagnon de l'intercesseur. Il a aussi pour compagnon le Saint-Esprit béni. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26-27. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est pour cela que nous avons fidèlement persévéré dans le Seigneur, malgré les nombreuses pressions. Avec de tels compagnons, courons jusqu'au but pour recevoir la couronne du vainqueur. Page 116, chapitre 11. Le jeûne et l'abstinence délibérée de nourriture dans le but de nous consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de renouveler notre puissance spirituelle. Si la prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de Dieu, alors le jeûne est l'huile de graissage qui facilite le déplacement à grande vitesse du train sur les rails. Le jeûne accélère le déplacement du train de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne fera pas tant que la prière de ses enfants ne s'accompagne pas du jeûne. Après avoir jeûné, nous sentons que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont jeûné. Nous allons considérer certains d'entre eux jeûner en tant qu'acte de repentance. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Néhémie 9, 1-3. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteur de l'autel. Venez, passez la nuit revêtu de sacs, serviteur de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Joël 1, 13-14. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des... Page 117. Jeûne, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après la bénédiction, des offrandes et des libations, pour l'Éternel votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent Éternel épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Joël 2, 12-17. Ainsi, nous voyons ici le jeûne, comme acte de deuil on se revêt d'un sac, le cœur est déchiré, on pousse des lamentations et des cris devant le Seigneur. Cela revient à dire au Seigneur, Seigneur, je regrette mon péché et mes échecs personnels, ou je regrette les péchés et les échecs de mon peuple. Jeûner, c'est comme si l'on disait à Dieu, Seigneur, vois ma repentance. Je hais ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Quand Israël combattit contre Benjamin, en un jour, Israël perdit 22 000 hommes, et la Bible dit tous les enfants d'Israël, et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel, ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûneront ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Juges 20, 26. Ceci entraîna une grande victoire d'Israël sur Benjamin. Jeûner pour l'humiliation de soi-même et d'Ras était parmi les Juifs qui étaient revenus de Babylone. le roi lui avait permis de transporter d'énormes richesses pour la construction de la maison de l'Éternel. Dans sa transaction avec le Seigneur, il avait fait comprendre au roi que son Dieu était le Dieu de toute la terre. Maintenant, il devait faire face à un problème: transporter des richesses énormes. Devait-il retourner chez le roi pour lui demander sa protection? Non. Il pensa que cela aurait affaibli son témoignage. Alors, il décida d'assurer sa sécu. Page 118. Rité, mais par un moyen qui démontrerait la puissance de Dieu. Que fit-il? Il le dit lui-même clairement là, près du fleuve d'Ava: je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça, Esdras 8:21-23. Esdras n'a pas choisi la voie la plus facile. Il n'a pas choisi de dépendre de l'homme. Il préféra choisir le chemin solitaire de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Cependant, il savait que ce chemin de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu était un chemin solitaire exigeant un prix à payer: le jeûne et la recherche de Dieu. Mais Esdras savait que ce chemin était finalement le plus sûr, car être un avec Dieu, c'est avoir la majorité. Contrairement à l'homme qui peut échouer, Dieu, lui, n'échoue jamais. Dieu ne le déçut point puisqu'il exauça sa prière. Oui, Dieu ne fera pas la sourde oreille aux prières de ses enfants, surtout aux prières accompagnées d'un jeûne d'humiliation. Que le Seigneur nous aide à jeûner et à prier ainsi. Jeûner pour la bataille de Chroniques 20:1-30. Les Moabites et les Ammonites, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. La multitude était trop grande pour lui et il eut peur. Dans sa frayeur, il aurait pu se tourner vers d'autres rois pour avoir de l'aide, mais la Bible dit: Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 2 Chroniques 20:3-4. Il publia un jeûne, non seulement pour lui-même, mais pour tout Juda. Il chercha l'Éternel. Il ne le fit pas tout seul, mais Juda s'assembla et des hommes de toutes les villes de Juda vinrent pour chercher l'Éternel. Page 119. Pendant qu'il jeûnait et qu'il cherchait l'Éternel, Josaphat dit en public: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20:2012. Il s'agit vraiment là d'une prière profonde, de cette prière qui provient normalement d'un cœur qui jeûne. En effet, c'était la prière d'un homme dans le jeûne, d'un homme en grande difficulté. Il dit à Dieu qu'ils étaient sans force. Seuls ceux qui, regardant à eux-mêmes, réalisent qu'ils sont sans force, jeûnent et cherchent Dieu. Josaphat dit qu'il ne savait que faire. Il était arrivé au bout de lui-même. Seuls ceux qui sont arrivés au bout d'eux-mêmes peuvent jeûner et prier. Ceux qui sont forts, de l'énergie de la chair, n'ont aucune raison quelconque pour jeûner, chercher Dieu et prier. Il dit que malgré leur manque de force et leur confusion, leurs yeux étaient sur le Seigneur. C'est cela la foi? Un homme de jeûne et de prière est un homme qui voit une situation désespérée ainsi que sa propre impuissance, mais qui, sachant que Dieu est capable, fixe ses yeux sur le Seigneur. En fait, un disciple qui jeûne, qui cherche et qui prie, confesse l'incapacité de l'homme et la capacité de Dieu. que Dieu suscite de nombreuses personnes de ce genre dans l'Église au moment où nous voyons s'approcher le jour du jugement. Page 120. Ceux qui cherchaient le Seigneur le faisaient avec conviction, zèle et ardeur. Tout le monde était impliqué. Les femmes, les enfants et les petits-enfants se tenaient debout devant l'Éternel. Tout le peuple était massivement engagé dans la prière, le jeûne et la recherche de Dieu. Lorsqu'une personne jeûne et prie, cela dérange le diable. Lorsque quelques saints jeûnent et prient, tout l'enfer est secoué. Mais Dieu attend le jour où l'Église tout entière va jeûner, prier et le chercher, et alors c'est tout l'enfer qui sera réduit à néant. Puissent tous ceux qui dirigent les diverses parties du corps de Christ travailler, œuvrer pour l'aube de ce jour. Le jeûne, la recherche de Dieu et la prière accomplie par la multitude firent descendre l'Esprit de l'Éternel sur Jachaziel, qui prophétisa « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu » 2 Chroniques 20, 15. Le combat avait maintenant changé de main. Auparavant, c'était le combat de Josaphat et du peuple de Juda. À présent, c'était le combat de Dieu. Qu'est-ce qui causa le changement? Le jeûne. La recherche de Dieu. La prière? J'aimerais suggérer que le jeûne, la recherche de Dieu et la prière transformeront le combat d'un individu ou d'un groupe d'individus en combat de l'Éternel. Lorsque le combat change de main, nous pouvons alors nous reposer, car Dieu est puissant. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentée, vous. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. 2 Chroniques 20, 17. Effectivement, ils n'eurent pas besoin de combattre. Dieu combattit et la victoire fut remportée. La Bible dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Page 121. 2 Chroniques 20, 22-24. Dieu avait remporté la victoire. Il peut encore remporter des victoires, aujourd'hui si nous sommes disposés à en payer le prix. Jeûner dans le but de se préparer à rencontrer Dieu. Un roi 19 Élie s'était opposé à Jézabel, à Acham et au prophète de Baal, et il triompha. Cependant, cette victoire fut suivie par un moment de découragement et il voulut mourir. Dieu le nourrit miraculeusement. Puis Élie s'engagea dans un jeûne de 40 jours, tout en se dirigeant vers Horeb. Son jeûne le prépara à une nouvelle rencontre avec Dieu. À Horeb, il rencontra à nouveau le Seigneur, qui l'encouragea et lui donna de nouvelles instructions pour son ministère, et avec la force reçue lors de cette rencontre, il revint livrer bataille à l'impiété. Par expérience personnelle, nous pouvons dire que le jeûne et la prière sont utiles pour préparer l'homme de Dieu à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et à être fraîchement rempli de l'Esprit de Dieu. Pendant ce jeûne, c'est comme si nous disions au Seigneur « J'ai besoin de te rencontrer à nouveau ». La faim que j'ai de toi est assez intense pour me faire laisser de côté les besoins normaux de mon corps. Dieu exauce toujours de telles prières? Comment pourrait-il laisser une âme qui jeûne s'en aller sans bénédiction? Jeûner pour changer une décision de Dieu. Jonas 3, 4. Ninive était une ville de péché dont la méchanceté était montée jusqu'à l'Éternel. Jonas 1, 2. Dieu décida de juger Ninive. En fait, il ne restait plus que 40 jours pour que Ninive soit jugée. Jonas 3, 4. Que firent ses habitants lorsqu'ils apprirent le jugement imminent qui les attendait? En premier lieu, ils publièrent eux-mêmes un jeûne. La Bible dit « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les grands jusqu'aux plus petits. » Jonas. Page 122. 3, 5. Deuxièmement, la mauvaise nouvelle parvint au roi. Il agit, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Jonas 3, 6. En cela, le roi s'humilia personnellement. Ainsi, l'humiliation concernait le peuple et le roi. Cependant, celui-ci ne s'en tint pas là. La Bible dit qu'il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'il crie à Dieu avec force. Genèse 3, 7-8. Le roi fit passer un décret. C'était officiel. Nous savons que beaucoup de chefs religieux font passer leurs propres décrets. Les contenus de ces décrets laissent beaucoup à désirer. Cependant, il s'agissait là du roi de Ninive. Son décret insistait sur l'humiliation, le deuil et le jeûne dans lesquels devaient s'engager tous les êtres humains et tous les animaux de son royaume. C'était un décret aux répercussions d'une grande portée. Bébés, nourrissons, malades, etc., et même tous les animaux, tous étaient concernés. Il n'était permis à personne de s'exempter de l'application du décret, sous aucune excuse ou aucun prétexte, même la maladie. Aucun bébé n'était trop petit pour l'être exempté. Même les animaux jeûnèrent. Non seulement ils se privèrent de nourriture, mais ils ne burent point d'eau. Toutes les femmes, même les femmes enceintes, participèrent. Ce fut peut-être le jeûne le plus sérieux de toute l'histoire. Mais ils ne se contentèrent pas de jeûner. Ils durent crier à l'Éternel et tous le firent effectivement. Cela a dû être très bruyant, trop bruyant pour les cadavres religieux calmes et bien organisés de nos jours. Ils ne se contentèrent pas de crier. On leur avait dit qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Genèse 3, 8. Ils se repentirent. Ils se détournèrent de leur mauvaise voie, tous sans exception. Personne ne fut autorisé à faire défaut. Leur humiliation, leur jeûne et leur repentance ne furent pas sans objectif. Ils avaient un objectif en vue plein de miséricorde. Ils voulaient que Dieu revienne sur sa décision et qu'il renonce à son ardente colère. Il faut que toute humiliation, tout jeûne et toute repentance aient un objectif.